Cette entrée en matière, bonjour à tous. C'est toujours un privilège pour moi d'être là, non pas parce que je suis quelqu'un, mais parce que quelquefois le Seigneur nous appelle à le servir de différentes manières. Et quelle que soit la manière que le Seigneur utilise pour que nous puissions le servir, il faut que nous puissions répondre présent. Comment ça va? Humainement parlant, on va dire que ça va pas tellement bien, puisque bon, vu la conjoncture actuelle, la situation sanitaire, etc. Mais en Christ, tout va bien. Dieu est bon en tout temps. Il y a très longtemps, c'est ce que dit en tout cas l'histoire. Plusieurs nobles anglais, dans leurs plus beaux habits, participaient à une chasse à courre aux renards. Et c'est ainsi que dans leur déplacement, ils se sont retrouvés devant une barrière fermée. Et à côté de cette barrière se trouvait un jeune garçon. « Ouvre la porte !» ordonna le leader du groupe. « Non !» répondit le jeune garçon. Cette propriété appartient à mon père et il m'a ordonné de garder cette porte fermée et de ne l'ouvrir à personne. Piqué dans sa fierté, le leader du groupe répondit : Ouvre la porte, mon garçon. Sais-tu qui je suis ?
Non, monsieur, répondit le garçon.
Je suis le duc de Wellington, proclama le leader du bonfait des chasseurs. Sans être impressionné, le jeune garçon répondit « Monsieur, le duc de Wellington est un héros dans ce pays et il ne me demandera jamais de désobéir à mon père. » Sur ce, les cavaliers firent demi-tour. J'aimerais ce matin réfléchir et méditer avec vous à partir d'un texte qui parle d'obéissance. D'obéissance à Dieu comme étant ce que Dieu attend de chacune de ses créatures, de chacun de ses enfants. Une obéissance, quelles que soient les circonstances, à l'instar de celle du jeune homme dans notre histoire. Et je vous propose de lire avec moi un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel. Je lis dans le livre de Samuel, chapitre 15, à partir du verset 10. 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 10, jusqu'au verset 23. C'est un long texte, mais qui semble nécessaire de lire, parce que lorsqu'on enlève un texte de son contexte, on en fait un prétexte. Verset 10. 1 Samuel, chapitre 15, verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit : Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire : Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit : Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit : Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ? Saül répondit : Ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu et le reste nous l'avons dévoré par interdit. Samuel dit à Saül : Arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit : Parle. Samuel lui dit : Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant : Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que Tu les as exterminés. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémices de ceux qui devraient dévouer afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel, trouves-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphèmes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier. Merci pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Dieu vient de rejeter le roi Saül. C'est pourtant Dieu lui-même qui l'avait choisi quelque temps auparavant pour être le premier roi d'Israël. Et Saül s'était révélé être un bon roi au commencement. Il avait su dès le départ rallier le peuple pour combattre les Ammonites et les vaincre. Malheureusement, les bons débuts du roi Saül n'ont pas duré. Et rapidement, Saül s'est montré sous son vrai jour, comme un homme instable, dont le cœur était finalement éloigné de Dieu. Et c'est ainsi que Saül a gravement désobéi à Dieu à deux reprises. Et c'est ainsi que Dieu va lui ôter la royauté. En quoi consiste la désobéissance de Saül dans notre passage ce matin ? Et ce passage relate sa deuxième désobéissance. Rappelez-vous, Dieu lui avait demandé de, je cite le texte, de faire rendre des comptes à Amalek pour ce qu'il avait fait à Israël quand il s'était mis sur son chemin, tandis que celui-ci montait en Égypte. En d'autres termes, frères et sœurs, Dieu lui avait demandé de frapper Amalek d'anathème par interdit, d'être l'instrument du jugement de Dieu. Et au lieu de cela, Saül avait gardé en vie le roi Agag, ainsi que le meilleur du bétail. Je lis les versets qui précèdent le texte que nous avons lu, les versets 7 à 9. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il le dévoua par interdit, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Et c'est ainsi, je ne vais pas rentrer dans les détails concernant cette désobéissance, mais c'est ainsi que Saül, frères et sœurs, a désobéi, et c'est ainsi que Dieu l'a rejeté. Et nous savons aussi qu'à partir de ce moment, Dieu va choisir un autre roi, un homme selon son cœur, le roi David. Saül a désobéi, c'est vrai, nous l'avons vu. Mais ce qui est surtout important pour notre propos ce matin, c'est que Saül pensait à l'évidence bien agir, et, ou du moins agir de manière à satisfaire Dieu. Et c'est ainsi qu'il avait gardé du bétail pour offrir des sacrifices à Dieu. Je relis les versets 13 à 15. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel.
J'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel lui dit, « Qu'est-ce donc ces bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils ont emmené de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. » Il est difficile de voir ici si Saül pensait véritablement bien agir. Ou alors si Saül savait qu'il agissait mal, mais qu'il pensait qu'il pourrait s'arranger avec Dieu. Ça ne vous arrive pas quelquefois? Il arrive, frères et sœurs. Oui, il nous arrive que nous nous trompions sur ce que Dieu attend de nous. Il arrive que nous n'ayons pas compris les voies de Dieu pour nous. Ou peut-être pas tout compris. Il arrive que nous nous égarions et que nous fassions fausse route. Il arrive que nous nous fassions des illusions sur ce que Dieu attend de nous. Et nous pouvons parfois mal agir en pensant que ce que nous faisons est juste et agréé par Dieu. Ce fut par exemple le cas de Saul de Tarse, vous vous rappelez, qui pensait servir Dieu en persécutant l'Église. Ce fut peut-être le cas ici du roi Saül. En tout cas, il y a un indice dans le texte qui pourrait nous permettre de comprendre les choses ainsi. C'est le verset 20, regardez, où il est dit, « Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté ou observé. J'ai bien écouté. » Il semble qu'ici que Saül est convaincu d'avoir bien agi. Et plus loin, il continue, « Et j'ai suivi le chemin sur lequel le Seigneur m'avait envoyé. » L'évocation de cette possibilité me permet de dire et de redire ce matin que une grande vérité, à savoir que la bonne foi, frères et sœurs, la sincérité n'est jamais gage de vérité. Beaucoup de gens sincères sont dans l'erreur et se sont égarés. Il arrive aussi que nous soyons dans l'erreur, consciemment, volontairement. Souvent, nous savons au plus profond de nous-mêmes que cela est le cas. L'Esprit de Dieu en nous met le doigt sur ce qui ne va pas. Nous le savons, mais nous continuons dans cette voie. Et parfois, il arrive que nous persistions quand même dans cette mauvaise voie. Parce que nous sommes pécheurs. Et nous restons pécheurs, même si Dieu nous a fait grâce. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pourquoi? Parce que parfois nous tombons dans l'erreur de penser que nous pouvons nous arranger avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est facile dans la vie chrétienne aussi de penser que la fin justifie les moyens. Il est si facile et si arrangeant parfois de penser que ce qui compte avant tout c'est le résultat. C'est l'objectif à atteindre. Et peu importe le compromis qu'il faut faire pour y arriver. Et c'est ainsi que parfois, le chrétien, alors qu'il a un objectif louable en soi, alors qu'il a de bonnes intentions, se retrouve à désobéir à Dieu, pensant peut-être que l'Éternel est une sorte d'ami avec qui il peut marchander. J'aimerais vous donner ici un exemple personnel que j'ai partagé avec un groupe de jeunes en Guadeloupe. J'avais parlé de délivrance, c'était le thème que je voulais parler ce matin, mais le Seigneur a changé les plans. J'avais parlé de délivrance et il y a de cela environ 25 ans. Et quand Dieu m'a délivré de ma folie et qu'il m'a fait grâce, tout de suite et très rapidement, j'ai eu à cœur de témoigner de ma foi, de ce que Dieu avait fait de moi à tous mes amis peu fréquentables.
J'étais plein de zèle, frères et sœurs. J'étais prêt à déplacer les montagnes. Il fallait qu'il sache ce que Dieu avait fait dans ma vie. Mais dites-moi, n'est-ce pas une intention louable? N'est-ce pas obéir à Dieu que de témoigner sa foi? Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je n'étais pas prêt. Ma foi n'était pas affermie. Le problème, c'est que m'engager dans cette voie-là, à ce moment-là, risquait de m'emmener à faire certains compromis. Des compromis, je dois le reconnaître, qui trouvaient une place, un certain écho favorable dans l'ambiguïté de mon cœur et de mes intentions. Et c'est ainsi que j'ai revu mes années de l'époque. C'est ainsi que j'ai témoigné de ma foi. Et c'est ainsi que je me suis laissé aller à quelques exceptions. Mais n'est-ce pas pour la bonne cause? Le salut de quelqu'un n'est-il pas plus important que quelques écarts de conduite? Dieu ne saurait-il pas faire la part des choses? La vérité, frères et sœurs, c'est que dans la vie chrétienne, dans notre relation à Dieu, dans notre obéissance à Dieu, la fin ne justifie jamais les moyens. L'obéissance à Dieu, l'obéissance que Dieu attend de nous, n'est jamais à géométrie variable. Ce que Dieu veut, et ce qu'il veut toujours, c'est notre cœur tout entier. Et ce qu'il déteste le plus, peut-être par-dessus tout, c'est le cœur double, le cœur partagé, le cœur hypocrite. Non, la foi ne justifie pas les moyens. Non, notre obéissance ne doit pas dépendre de l'objectif à atteindre, aussi louable soit-il. Nous devons toujours nous souvenir que c'est Dieu, et Dieu seul qui est toujours le seul garant des résultats. Prendre cela dans nos mains, frères et sœurs, c'est vouloir se substituer à Dieu. La seule chose que Dieu nous demande, c'est notre obéissance. C'est lui qui fera le reste. Alors oui, parfois, sous couvert d'objectifs louables, nous pouvons désobéir à Dieu et nous nous autorisons à désobéir à Dieu. C'est plutôt ça. Oui, parfois, dans la conscience de la désobéissance, nous pensons, nous avons la folie plutôt de penser pouvoir nous arranger avec Dieu. Mais quand nous agissons ainsi, frères et sœurs, nous minimisons la grâce de Dieu. Pire, nous la méprisons. Nous méprisons le prix payé par Dieu, c'est-à-dire la vie de son Fils unique pour nous offrir sa grâce, qui elle seule couvre tous nos péchés et toutes nos désobéissances. Dans les arrangements possibles, il y a aussi tout ce que nous pensons pouvoir faire valoir devant Dieu. Bien sûr, toutes nos bonnes œuvres, nos mérites, notre service pour le Seigneur, tout le temps que nous consacrons au Seigneur, toutes les heures que nous ne comptons plus, tous les biens que nous donnons généreusement au Seigneur, tous les sacrifices auxquels nous consentons volontairement. Et nous pensons peut-être que tout cela pèsera assez lourd dans la balance et que cela finira par contrebalancer notre désobéissance. Nos écarts de conduite, notre péché. Nous pouvons parfois nous illusionner, perdre notre lucidité et finir par croire que notre bon et fidèle service nous donne droit, ou plutôt nous donne des droits devant Dieu, des privilèges, des passe-droits, des compensations, et de dire que le Seigneur, et oui, le Seigneur comprendra. Et pourtant, Quand nous avons obéi à Dieu, nous n'avons fait rien d'autre que notre devoir. Nous n'avons fait rien d'autre que de tenir notre rang de créature. Nous n'avons rien fait d'autre que de ce que nous devrions faire. Dieu
ne nous doit rien. Et nous lui devons tout. Nous lui sommes redevables de tout. Et nous pourrions ainsi détourner le fameux verset des Corinthiens où Paul dit que même s'il parlait les langues des humains et des anges, même s'il avait la capacité de parler en prophète, même s'il avait la science de tous les mystères et toute la connaissance, ce n'est quand même pas rien, n'est-ce pas? Même s'il avait toute la foi qui transporte les montagnes, s'il n'avait pas l'amour, il n'était rien. Et nous pourrions dire que même si nous servons le Seigneur, même si nous nous sacrifions souvent pour lui et pour son royaume, même si nous donnons généreusement de notre temps, de nos biens, même si notre vie est exemplaire de bien, de manière, si nous n'obéissons pas à Dieu, cela ne nous sert à rien. Ce qui compte avant tout, frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce qui compte avant tout, c'est notre cœur devant le Seigneur. Si notre cœur est droit, ici à l'église d'Argenteuil, si notre cœur est entier au Seigneur, notre service suivra et nos bonnes œuvres aussi. Jésus a évoqué cette triste réalité du décalage entre ce qui est fait et le cœur. Il l'a fait à la fin du sermon sur la montagne en parlant de toutes celles et de tous ceux qui feront valoir un jour devant Dieu de bonnes choses, de grandes choses qu'ils ont faites pour le Seigneur, qu'ils ont même faites au nom du Seigneur. Mais à qui le Seigneur dira cette phrase terrible de Matthieu chapitre 7 ? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Je n'aimerais pas que le Seigneur puisse me le dire un jour. C'est pour ça que j'essaie de penser comme l'apôtre Paul, d'être toujours une œuvre d'amélioration dans les mains du Seigneur, pour justement ne pas être disqualifié. Frères et sœurs, accomplir de grandes choses ne suffit pas à me justifier devant Dieu. Ce n'est pas parce que je prêche la parole que j'ai le droit de me justifier devant Dieu. C'est mon cœur que le Seigneur attend. D'ailleurs, rien de ce que je fais, de ce que je pourrais faire n'est suffisant pour me justifier devant Dieu. La justification, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous offre, un cadeau immérité, qu'il nous offre sous la base de notre foi que nous plaçons dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Ce qui compte, je le redis, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce qui compte en premier, c'est notre cœur. C'est notre relation intime avec Dieu. Et si notre cœur est droit, si notre cœur est attaché au Seigneur, alors notre service découlera de cela et de bonnes œuvres suivront. Et nous serons remplis du fruit de l'Esprit. Frères et sœurs, Saül était prêt. On peut certainement le critiquer, mais il était prêt à faire de grands sacrifices pour Dieu. Regardez le verset 15. Il était prêt à faire de grands sacrifices, mais ce n'était pas ce que Dieu désirait de lui. Ce que Dieu désirait, c'était son cœur, sans partage. Ce que Dieu désirait, c'était son obéissance. Et c'est en réalité ce que Dieu attend de nous aussi, et ce que Dieu exige de nous et de tout homme sous cette terre. Il exige de nous notre soumission à sa volonté, mais depuis la chute... Depuis la désobéissance d'Adam et Ève, l'homme n'est plus en capacité de faire pleinement et parfaitement la volonté de Dieu. La désobéissance de nos premiers parents a faussé la donne. Elle a mis le germe de l'insoumission à Dieu au plus profond de nous-mêmes. Et notre cœur est devenu
tortueux par-dessus tout, dit l'Écriture. Et par nature, nous sommes des enfants rebelles. Nous sommes des enfants rebelles à Dieu qui suivent leur propre voie. Seule la parfaite obéissance du Christ pouvait rétablir cette communion perdue. Seule la parfaite obéissance du Christ jusqu'à la mort de la croix pouvait nous offrir un cœur nouveau. Seule la parfaite obéissance du Christ pouvait satisfaire la justice de Dieu et ainsi nous offrir par la justice du Christ, par la foi, comme le cadeau de son amour pour nous. C'est ainsi que le croyant qui met sa foi en l'œuvre parfaite du Christ, à sa parfaite obéissance, devient une nouvelle créature et reçoit un cœur nouveau, un cœur régénéré, un cœur purifié. Et c'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Ancien Testament. Je cite ici le prophète Ézéchiel qui parle de l'œuvre de transformation intérieure que Dieu allait accomplir pour son peuple et pour tous ceux qui mettraient leur foi dans le Messie. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je purifierai toutes vos souillures et toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivriez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. L'homme n'a rien inventé dans le médical. Il y a là la première chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Un cœur nouveau. Quelle grâce merveilleuse de Dieu pour nous. Mais nous devions bien comprendre ici que si le cœur est nouveau, la chair reste là. Elle demeure. Et c'est ainsi, et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, il y a cette guerre en nous. Il y a cette bataille en nous. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même dira que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais ceci dit, avec son cœur nouveau, avec notre cœur nouveau, le chrétien, l'enfant de Dieu, est maintenant en capacité d'obéir à Dieu. Il est en capacité de dire non au péché. À une condition, s'il fait le choix de marcher par l'esprit et non plus par la chair. Et je vous renvoie au 5e chapitre de l'Épître aux Galates si vous voulez creuser dans cette question. Mais cette capacité nouvelle, qui est liée au cœur nouveau que Dieu a mis en nous, ne nous est pas donnée comme une option. C'est pourquoi Dieu attend et demande de nous notre pleine obéissance. La difficulté pour nous, frères et sœurs, c'est que nous vivons dans un monde, dans une société où tout est de plus en plus une affaire d'options. Et nous sommes de plus en plus formatés ainsi. Vous achetez quelque chose, une voiture par exemple, et c'est toujours après une affaire d'option. Et oui, ce qui fera la différence entre tel ou tel modèle de voiture, ce sont les options. Ce sont les options que vous allez choisir. Et nous le constatons aussi dans notre vie. Ou du moins, la mienne. Beaucoup de choses sont aujourd'hui optionnelles, facultatives, à la carte, au bon vouloir de la personne. Et nous sommes habitués à ce que tout autour de nous fonctionne comme cela. Mais dites-moi, il n'en est pas de même avec Dieu. Il n'en est pas de même avec l'obéissance de notre cœur. Dieu ne s'accommode pas du partage de notre cœur. Dieu ne s'accommode pas d'être une option parmi d'autres, ni de nos faux semblants, de notre religiosité, de nos façades, de nos hypocrisies.
Ce que Dieu veut, c'est notre cœur tout entier. C'est notre pleine obéissance. Toujours, jamais en option. Ce que Dieu veut, c'est que nos actes soient en harmonie, en cohérence avec notre cœur, avec ce que nous croyons et ce que nous professons. Je le redis, ce que Dieu déteste parmi tout, c'est l'hypocrisie. C'est cette incohérence, maintes et maintes fois dénoncée par les prophètes de l'Ancien Testament, maintes et maintes fois dénoncée par Jésus-Christ lui-même. Il y aurait tellement de choses, beaucoup de choses ici à dire, des textes pertinents à lire. L'homme se contente très souvent des apparences. Il peut ainsi assez facilement tromper son prochain, mais pas Dieu. Pas Dieu qui voit jusqu'au cœur. Et c'est dans ce même livre de Samuel, il y a cette parole très connue que Samuel va citer au moment où il fait passer les fils de Jessé devant lui. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le Seigneur n'est pas abusé par nos façades. Et il voit au-delà de nos apparences, au-delà de nos services et de nos sacrifices, s'ils sont hypocrites. Et c'est ainsi que Dieu voyait le cœur de Saül. Et c'est ainsi qu'il a pu dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est le verset 22 de notre texte qui est le verset clé de ce passage. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors, nous devons nous poser la question ici, frères et sœurs, Dieu est-il contre les sacrifices? Absolument pas. Mais il est contre les sacrifices qui cachent un cœur qui est loin de lui. Ce n'est pas en premier ce que nous faisons, mais c'est en premier ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, de notre relation à Dieu. Frères et sœurs, si notre cœur est au Seigneur, cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits, bien sûr. Mais si nous sommes attachés à lui comme David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, et nous connaissons son parcours, malgré son parcours, il est dit qu'il était pleinement attaché au Seigneur, et c'est cela qui était important. C'était un homme selon le cœur de Dieu. J'aimerais terminer simplement ce matin en soulignant que ce texte et ce message nous amènent à observer une grande vigilance. Que nous devons exiger jour après jour dans notre vie. Celle de garder notre cœur. Celle de garder notre cœur, oui, garder notre cœur plus que toute autre chose. Et nous avons ce beau texte dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Et puis le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est vraiment cela qui compte pour nous, frères et sœurs. C'est cela que j'aimerais vous laisser ce matin. De tout ce qui a été dit, l'avons-nous compris? Y veillons-nous dans notre propre vie? Peut-être nous pouvons en faire un objectif pour cette semaine. Et le Seigneur veut nous aider à le faire. La barre est un peu haute, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais avec le secours, avec son secours, le secours de Dieu, nous pouvons y arriver. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Nous en sommes capables. Et David l'avait compris. David l'avait compris quand à la fin du psaume 139, il écrit ces deux versets, cette prière que nous connaissons tous et qui résume et conclut parfaitement notre message de ce matin. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Il est celui qui voit au plus profond de nous, n'est-ce pas? Éprouve-moi et connais mes pensées, mes préoccupations. Il est celui qui comprend les difficultés que nous vivons, n'est-ce pas? Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La dépendance de David à Dieu. Oui, il était dépendant. À un moment donné, David disait, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Il s'est rendu compte qu'à un moment donné, il ne pouvait rien faire de lui-même. Seulement avec le secours de Dieu qu'il était capable d'accomplir des exploits. Frères et sœurs, que le Seigneur accomplisse cette œuvre de grâce pour chacun de nous. Qu'il nous accorde non seulement de le laisser mettre le droit là où ça ne va pas dans nos vies, mais aussi, une fois qu'il l'a fait, qu'il nous accorde l'humilité de reconnaître nos fautes devant lui. Et qu'il nous accorde aussi le vouloir et le faire. Et pour marcher de progrès en progrès sur le chemin de l'obéissance. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse du bien.
Amen.
Nous allons, je vais prendre 2 minutes. Nous allons courber nos têtes, courber nos fronts. Rentrer dans un temps de calme afin que nous puissions voir l'état de notre cœur devant le Seigneur. Que le Seigneur puisse vraiment nous visiter ce matin et que nous puissions vraiment lui donner un cœur entier.